Texte pourquoi la guerre, c'est une demande que la Société des Nations a fait Einstein qui choisit comme interlocuteur pourquoi de reste, c'est le pourquoi métaphysique hein, de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Le varum, c'est pas simplement pourquoi je dois traverser quand le feu est rouge pour les voitures, c'est d'où ça vient et quel but ça sert. C'est donc une langue très métaphysique, l'allemand. Ce texte a un précédent, c'est pas du tout la première fois que Freud parle de guerre, puisque, évidemment, pendant le premier conflit mondial, il écrit « Considération actuelle sur la guerre et sur la mort ». Voilà, ce qui est actuel, c'est considération actuelle. Hein. Dans un désenchantement, c'est-à-dire de son utopie politique, totem et tabou, un texte politique, à savoir une société qui respecte les interdits fondamentaux voit la parole opérer des possibilités de liaison. Voilà. Pas nécessairement, c'est pas romantique, mais de liaison entre les affects et la présentation. Bon. Alors, qu'est-ce que ça change, la question du génocide en temps réel avec un bombardement Gaza est bombardé et toute la planète est bombardée par des images. D'abord, je pense que il y aura une guerre des images. Est-ce que les images tiennent lieu de preuve? Une image ne tient pas lieu de preuve. Donc, ce qui va être désavoué, c'est le discours qu'il y en a un qui porte sur ces images. C'est un montage, c'est un trucage. On voit que des trucs, ou alors on vous présente des restaurants à Gaza où il y a plein de monde qui ont été filmés il y a 4 ans en vous disant oh, c'est ça la réalité de Gaza aujourd'hui. Donc c'est pas parce que c'est le problème du bombardement d'images, c'est l'argument comme quoi l'image tient lieu de preuve. Ça, c'est une véritable question. C'est-à-dire quelles sont les nouvelles figures du négationnisme. Ça a toujours existé. Négationnisme de l'histoire contemporaine, ça commence avec la négation du génocide arménien. Ça se poursuit avec la négation de l'existence des camps d'extermination. Il y a un négationnisme discret, par exemple, qui dit les événements d'Algérie, au lieu de dire la guerre d'indépendance du peuple algérien. Il y a des négationnistes très discrets. Et on s'aperçoit que les mots s'affolent. Les mots s'affolent complètement. Il y a des. Qu'est-ce que ça fait d'être pris comme ça dans des images qui elles-mêmes vont être mises en avant comme si une image était en elle-même un argument, une preuve. Une image, c'est un choc. C'est le discours qui fait arriver, c'est pas l'image.
Qu'est-ce que dit l'enfant?
Alors les enfants, qu'est-ce qui se passe quand ils voient ces images? Je pense qu'il faut considérer que les paroles d'enfant, c'est des paroles qui manquent à l'adulte. Qui manquent dans les deux sens. Qu'il ne dit pas, et qu'un certain confort que nous avons avec le refoulement nous prive même d'avoir accès à telle parole. C'est dans les deux choses, pas simplement. Les parents ne disent pas. Il faut sauver la mort, voilà, évident. Quoi. Mais le fait qu'on dispose, ce que Lacan appelait le signifiant du nom du père, soit un terme beaucoup plus simple pour là où on peut avancer aujourd'hui, quelque chose qui nous met à peu près tranquille avec le fait d'avoir été produit au monde, voilà. Ça. Eh bien, ça ne fait pas que refouler. Des représentations pulsionnelles inacceptables, parle-moi, ça crée une certaine bêtise. Voilà. Notre accoutumance à la condition d'avoir été produit dans le monde, et c'est normal, délirant pour ne pas être accoutumé à cela, se paye d'un certain prix qui est quand même que ce qu'il y a à vivre dans les questions du mort et du vif, ben, on les refoule. Et ce n'est pas sur le modèle du refoulement freudien qui refoule, par exemple, la présentation d'une pulsion meurtrière ou incestueuse. C'est autre chose. Bon. On se crée une zone, comme on dit, un périmètre de sécurité, comme on dit maintenant, avec ce signifiant du nom du père, hein, qui fait qu'on a du mal à parler vrai. Parler vrai, c'est pas à dire la vérité, c'est bien parce qu'on peut pas la dire qu'il faut tenter de la dire. On n'est pas cynique. Pas se dire, vérité, on ne pourra jamais la dire, alors on y va pour les bobards. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui soutient la situation analytique, c'est la vérité, d'accord, on ne peut pas la dire toute, mais il faut quand même essayer quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Bon. Autrement, on est cynique. Bon. Dans l'époque est extrêmement cynique. Hein. On est dans un monde extrêmement cynique et où, parfois, alors, il y a des massacres à Gaza, il y a des massacres au Liban, il y a des massacres au Soudan. Et moi, par exemple, quand je m'émeus énormément, vous le savez, sur Gaza, on me dit « Ouais, mais t'as pas vu ce qui se passe au Soudan ?» Les gens qui me disent « T'as pas vu ce qui se passe au Soudan ?» Ils sont pas sur le terrain au Soudan. Ils me diraient « Oui, je comprends, mais moi, j'ai aussi l'enfer au Soudan, je voudrais t'en parler. » Welcome, hein. Ils sont pas... C'est-à-dire qu'ils se servent du massacre de civils et d'enfants soudanais pour m'interdire de penser Gaza.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça le cynisme. On appelle la concurrence des mémoires, c'est la concurrence des amnésies. Il ne faut pas appeler les choses tout le temps par des mots, alors que c'est l'inverse qui est quand même plus plausible. C'est la concurrence des amnésies. C'est-à-dire soit amnésique sur Gaza puisqu'on se tue dans le Sud-Soudan. Alors vous voyez, ce qui se présente au départ comme un rappel à l'ordre, comme une responsabilité, comme et peut-être presque comme oh, arrête de t'en faire, comme il y a quand même d'autres choses graves. Ça. C'est une véritable saloperie, c'est-à-dire j'utilise les morts du Soudan pour que tu arrêtes de m'ennuyer avec les morts de Gaza. Vous voyez, et ça se présente au départ comme je dirais, une réflexion élargie géopolitique. Alors que c'est véritablement sur moi qui parle, dans sa cruauté. Je t'interdis de penser, je t'interdis de dire, je t'interdis de témoigner. Bon. L'autre plan qui m'intéresse beaucoup dans les réactions que fait naître le travail super que tu viens de faire, bon, super, c'est le discrédit porté sur la parole. Le discrédit porté sur le témoignage. Dès qu'il y a un témoignage, il est suspect d'avoir été manipulé. Mais manipulé par l'autre. Bien. Que celui ou celle qui témoigne, finalement, il est sous l'emprise. Alors, ce terme d'emprise est très intéressant. D'abord, je voudrais qu'on me définisse une situation où il n'y a pas d'emprise du tout. Ça ne veut pas dire que l'emprise, c'est chouette, c'est pas ça que je veux dire. Mais de suspecter que quelqu'un parle sous emprise signifie que nous, on a une connaissance absolue sur la source qui exercerait son emprise sur celle ou celui qui parle. Bon, c'est pas évident, cette affaire-là. Ça veut dire que Ça se voit très bien dans les réfutations de Gaza. On entend des abominations. On nous parle de famine, où sont les traces de la famine, voilà. Bon. On nous parle de génocide, mais regardez, les survivants. Bon. Enfin, des saloperies comme ça. Enfin, alors, je crois que là, nous touchons à la question... Nous avons touché à cette question ce matin du rapport entre la haine et le négationnisme. Et les stratégies négationnistes. On peut être d'accord ou pas avec l'ensemble de ces positions, je ne vais pas discuter de ça, c'est Madame Albanaise. Bon. En France, notre ministre des Affaires étrangères, français, je dis notre, bon, mon ministre, hein, fait tout un numéro de pitre vertueux à l'Assemblée nationale, en attribuant à Mme Albanès des propos qu'elle n'a jamais tenus, en disant qu'elle était à un dîner où elle n'était pas, etc., etc. Tout le monde applaudit. Pratiquement tout le monde. Bon. Et ceux qui applaudissent pas, évidemment, disent « Ah ouais, t'applaudis pas parce que t'es antisémite. » T'es antisémite, quoi. C'est facile, ça. Bon. Quel est cet état passionnel, hein? La passion, c'est pas nécessairement... ça peut être très froid, la passion. Voilà. C'est ça que j'en parlais de ça. Qui fait qu'une partie... Qu'on est insouciant ou délibérément, comme on dit, de mauvaise foi, avec une partie de la réalité. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas de l'erreur. Il s'est trompé. Si je vous dis Warum Krieg, c'est 24, je me serais trompé, c'est 33. Ça, c'est une erreur. Bon. C'est pas ça. C'est un montage dans un rapport où, sur ce plan-là, essayer de serrer au plus près la vérité n'a pas de raison d'être. Et il n'est pas question d'élaborer un discours, d'élaborer des faits, de contrebalancer des versions par une autre. C'est-à-dire qu'on est dans la négation aussi du politique, au sens de politique de SDN qui commande Warum Krieg, au sens d'une tentative d'établir les faits. Voilà. Les faits. Alors, l'idéal occidental, depuis Nuremberg, procès de Nuremberg, c'est de créer une catégorie qu'on extirpe de la littérature, qui s'appelle crime contre l'humanité. C'est extirper de la littérature, parce que l'histoire de crime contre les humanités, c'est une création d'un philosophe qui a fait scandale en écrivant la vie de Jésus, comme si Jésus était un homme comme les autres. Il s'appelle Ernest Renan. Et Ernest Renan disait, mais attention, vos menées colonisatrices, y compris au Moyen-Orient, vous font détruire des livres irremplaçables, ce qu'on appelle les humanités. Et donc le crime contre l'humanité, c'est dérivé d'une condamnation d'Ernest Renan qui disait « Vous détruisez les humanités ». Les humanités, c'est l'univers du livre qui était... Voilà. Ça, depuis la Renaissance, en particulier depuis un éditeur vénitien qui s'appelle Aldo Manucci. Nuremberg, c'est « Crime contre l'humanité », avec cette idée... En balance, tout le monde y croit, que si on a décidé cette catégorie sans précédent, et donc je ne discute pas qu'elle soit utile, hein, puisque maintenant, en termes de génocide, ça va être tranché au tribunal, au TPI, tribunal pénal international, c'est un débat. Mais le credo, à quoi on croyait, c'est plus jamais ça. Or, notre bagarre, elle se situe presque dans un temps antérieur. Pas de dire plus jamais ça, mais d'établir qu'il y a eu ça. Voilà. C'est pas la même chose. Il y a eu ça. Voilà. Donc aujourd'hui, la haine négationniste, c'est une haine pour effacer le « il y a eu ça ». Voilà. Hein? Donc il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de génocide. Voilà. Il n'y a pas eu de génocide à Gaza. Et quoi ? Oh, un massacre. Oh, bon, un de plus. Un de plus. Comme au Soudan, comme partout. Un de plus. On va pas s'inquiéter tant que ça pour ça, il y en a partout. Il n'y a pas eu de famine. À un moment, l'aide alimentaire a été bloquée pour des raisons de sécurité. Bon, on n'a pas été détourné non plus, parce qu'il y a des détournements, c'est évident. Non, non, c'est sûr... Il y a eu ça que se joue actuellement la bataille. Pas sur le plus jamais ça. Bon. Donc c'est une espèce de désenchantement du plus jamais ça. Il y a eu ça obéit à une logique complètement dingote. C'est-à-dire, il y a eu ça, mais c'était nécessaire, donc ça n'a pas eu lieu. Il y a eu ça, mais c'était nécessaire, donc ça n'a pas eu lieu. C'est quand même une réalité. C'est que les Palestiniens, personne n'en veut. Et puis les Arabes non plus, ils ne sont pas très accueillants aux Palestiniens. Mais...
Enfin, ça se discute.
Ça se discute, d'accord. Ça se discute. mais je veux dire, ils sont quand même traités comme une quantité surnuméraire.
Mais pourquoi veux-tu qu'ils les reçoivent plus que n'importe quel autre pays? Parce qu'ils sont arabes. Tu vois, c'est le présupposé de les Arabes ne sont pas très accueillants, ça veut dire entre Arabes. Tu vois, il y a une dimension qui se discute.
On en parle. Là, je dis à peu près les mots qui circulent.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Je sais bien que c'est plus compliqué que ça. Bon. Disons, il y a aussi un accord dans l'opinion occidentale, sans doute que ce n'est pas pareil ici, j'espère en tout cas, pour les mettre du côté du surnuméraire.
Oui.
Voilà, ça je veux dire. Mm-hmm. Voilà. Alors, quand vous êtes du côté du surnuméraire, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le surnuméraire, il n'a ni ascendant ni descendant. Il y en a, il y a des parents, il y a des enfants, etc. Mais... Ce que j'essaie d'articuler, c'est, au fond, il y a une espèce de compactisation des générations. C'est tout. Comme dans les camps, il y a la génération des camps, c'est complètement idiot. Il y avait des grands-parents, des parents, des enfants. C'est pareil au Cambodge. Quand j'ai travaillé au Cambodge, on me disait, il y a une génération des camps. Je dis, non, il y a plusieurs générations dans les camps. Savoir que les camps de la mort, les massacres de population n'ont pas aboli la dignité générationnelle d'un individu, ça je veux dire. Bon. Donc le surnuméraire, c'est d'emblée quelqu'un dont on a tellement aboli la dignité générationnelle qu'on pourrait s'en débarrasser. Et à partir de quand on peut dire c'est pas humain? C'est quand on l'a massifié avant de l'exterminer. On extermine ce qui est massifié. Bon. Alors. Je crois que nous vivons des enjeux d'une extrême cruauté. Et on n'a pas utilisé ce mot de cruauté, il me vient que maintenant, je ne dis pas on aurait dû, dis donc, il me vient en vous parlant. La cruauté, c'est attaquer ce qui, chez l'autre, pourrait nous rappeler notre finitude. Voilà. Ce n'est pas notre différence. Ce qui est attaqué, ce n'est pas le fait qu'il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui donnent à leur Dieu tel nom, ou qui pensent qu'ils n'ont pas de Dieu et qu'ils n'auraient pas de nom. Ils discutent aussi cette affaire. Mais bon, ce qui est attaqué chez l'autre, c'est qu'il nous ressemble dans un point, sur un plan qui n'est pas celui du miroir. Ce qui est attaqué chez l'autre, c'est son rapport à la finitude, c'est-à-dire à sa dignité d'amour, à sa capacité de mourir, et peut-être ce que les psychanalystes appellent le refus de la toute-puissance pour pouvoir parler vrai, pas dire la vérité, mais dire dans un effort vers la vérité, parler vrai, eh bien, c'est la finitude de l'autre qui doit être attaquée avec cruauté, parce que ça nous rappelle de trop notre propre finitude. Et la cruauté, c'est désavouer l'argument anthropologique de l'autre, généralement en le réduisant à un corps. Tu n'es qu'un corps, mais ce n'est pas un corps désirant. Bon, dans la vie, le corps de l'autre, il prend toute une place. Ça peut être un enchantement, c'est pas ça que je veux dire. En le réduisant à un corps qui est de trop, excédentaire. Le surnuméraire, par la cruauté, est réduit à un corps excédentaire. Parce qu'il il nous rappelle que ce qui pour nous va de soi, because cette utilisation du signifiant du nom du Père, c'est-à-dire être existant et avoir été produit, au fond, ça ne va pas de soi du tout. Non. Pour ça qu'on peut dire que dans beaucoup de guerres, les ancêtres sont convoqués. Au principe de la guerre même. La guerre peut être une forme morbide de culte des ancêtres. Alors, sur la terre que j'occupe, il n'y avait que mes ancêtres à moi. Rappelle quand même qu'un des champions de l'apartheid en Afrique du Sud, qui s'appelait Terre Blanche, qui sont un peu lourds à porter, s'est suicidé quand on lui a démontré que dans son arbre généalogique, il avait une arrière-grand-mère aborigène. Il s'est suicidé. Pour que ce nom ne soit pas entaché par cette révélation. C'est quand même absolument dingue. Alors, j'avais quelques considérations plus larges d'un point de vue théorique à amener. Bon. Premier point, c'est est-ce que la haine est un affect ? La réponse est difficilement non. Ce qu'on appelle un affect, le poids de nos représentations sur notre rapport à notre champ pulsionnel et à notre image. Et pourquoi, par exemple, chez Lacan, dès le séminaire 1, qui s'appelle « Les écrits techniques de Freud », Lacan dit qu'il y a trois passions fondamentales. L'amour, la haine et la méconnaissance. Pas deux. Pas l'amour et la haine, les trois. D'aucuns diront qu'il a trouvé, pour armer cette pensée, le ternaire bouddhiste de l'appétit, du dégoût et de l'ignorance. C'est tout à fait possible. Ça, c'est dans ce texte somptueux qui s'appelle « Les mémoires de Milarepa », fondateur d'une tendance bouddhiste du grand véhicule. Mais enfin, c'est articulé autrement. Le bouddhisme nous commande de nous purger de nos passions, la psychanalyse nous invite à y voir clair. Même pas du tout la même chose. voilà pourquoi c'est pris dans la passion. Alors, l'origine du mot passion chez Lacan, elle renvoie bien sûr à son propre ancrage culturel dans la littérature philosophique française, c'est-à-dire à Descartes et à Blaise Pascal. Bon. Mais d'un point de vue métapsychologique, ça c'est... Puis les grands moralistes du XVIIIe siècle, dont en particulier La Rochefoucauld, mais il y en a d'autres. Bon. Mais il y a autre chose. C'est que si c'est une passion, ça n'obéit pas au modèle de l'affect, comme la quantité d'énergie qui se détachent de la représentation pour retourner sur le corps propre une fois que la représentation a été refoulée. Ça, c'est l'affect. Donc, une passion, c'est une forme primitive de la relation à l'autre. On va presque dire originaire. Là, quand on parle de haine, on parle d'origine. Bon. Alors, on peut en parler politiquement, à savoir, tu es incompatible avec mon origine, donc je te hais, mais c'est pas je te hais parce que je ne t'aime plus. C'est autre chose. Autre chose. Donc c'est très insuffisant de non pas dans la clinique individuelle, là, l'énamoration. Et c'est important, ce passage de haine à l'amour. Hein. Bon, Lacan nous dit qu'il y a trois passions fondamentales. Hein. L'amour, la haine, la méconnaissance. Bon. Je vais revenir surtout sur la méconnaissance. Mais ça ne l'empêche pas de nous proposer le terme d'énamoration. Ce qui veut dire que le basculement de l'amour en haine est quelque chose qui est essentiel pour la clinique. Je dis pas, du coup, l'énamoration, on s'en fout. Pas du tout. Puisqu'il propose ce terme. Il est rare que Lacan vous propose un terme en disant « Ouais, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Plutôt avec les copains, on discutait, on déconnait un peu, peut-être qu'on a bu un coup. » Je dis « Énamoration, bon, ces trucs dans la vie, mes pauvres enfants. » Non, quand même. Des heures de séminaire, là-dessus. Premier point que je peux dire, c'est que du côté de la haine, on est dans l'ontologie, ce qui campe l'être dans le monde. C'est quand même très important. Donc on va se dire, dans un lien qu'on fait tout de suite entre haine et origine, se dire que la haine est à l'origine. Bon. Est à l'origine de quoi ? Chez l'autiste, c'est pas évident, hein ? Est à l'origine de quoi ? est à l'origine de la fabrication d'un dehors, d'un dehors indésirable. C'est la fabrication d'un dehors indésirable, du mauvais. Mais est-ce que pour autant la menace du dehors est-elle complètement conjurée par la haine? C'est pour ça que l'exposé de Nedra est très fort, parce que elle nous dit à la fois, enfin à la fois, non, une même densité de paragraphes presque, que le mauvais, c'est ce qui se trouve au dehors, c'est même la phrase mise en exergue, et qu'en même temps, c'est la haine qui crée l'objet. Alors là, on est quand même devant un embarras. Je veux dire que si on pensait que le travail de la haine s'accomplit complètement, il n'y aurait pas d'objet à chercher au dehors. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait cette création de l'objet? Au départ, l'objet, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Donc, c'est objet, c'est ce qui. C'est un mouvement qui surgit devant le sujet. Alors, au titre de ces objets qui provoquent de la haine, Lacan a isolé un moment le miroir. Il a isolé. Ce qu'il a mis sur la piste du miroir, c'est que tout le monde travaille sur le miroir. Le miroir, c'est très travaillé, en particulier dans la tradition française, par Rousseau. Darwin a énormément travaillé sur le miroir. Bon. Et à l'époque de Lacan, le grand spécialiste du développement de l'enfant, qui avait beaucoup d'affinités avec la psychanalyse, qui est Henri Vallon, n'arrêtait pas de faire des recherches sur le miroir. Alors, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui fait que Lacan plongeait dans ses recherches? On en parlait tout le temps. Comme à l'époque de Freud, on parlait tout le temps des rêves. Mais Freud a sorti son équation. Alors, qu'est-ce qui amène Lacan à sortir son équation? C'est son travail sur la paranoïa. Lacan s'introduit à la psychanalyse, évidemment dans l'échange avec les copains de la Société de l'évolution psychiatrique dont il est membre, dès les années 27, enfin, dès 1927 plutôt, 27 ça veut rien dire, et son intérêt sur la question du double en psychopathologie. À savoir, aimer, et la maman de Didier Anzieux, dans sa fascination pour une actrice en vogue qu'elle suspecte de vol d'enfant. La mise en miroir du couple de Christine et Léa Papin par Madame Ancelin et sa fille. De sœur Papin, alors, jusqu'à un assassinat sacrificiel, puisqu'elle prépare les corps des victimes comme un lapin qu'on va mettre à cuire dans un civet en énucléant l'une et l'autre de leurs victimes. Rapport au miroir dans la folie à deux de Christine et de Léa Papin. L'une profondément paranoïaque, l'autre complètement immature, d'une mélancolie infantile, etc. Donc, ça l'intéresse, Lacan. Et avant de parler de cette fameuse assomption jubilatoire, le texte a été préparé au congrès de Marienbad en 1936, il a été écrit en 1949, il nous indique que notre rapport au miroir, c'est la connaissance paranoïaque, dont Lacan fera les délices, dont Dali fera ses délices. Alors qu'est-ce que c'est cette connaissance paranoïaque? C'est je. Une expression comme ça, je dégonfle ma haine. Mais ça, c'est bien. Si je voulais tout de suite trouver dans le florilège d'expressions que Nedra nous a présentées, dont elle nous a gratifié, trouver quelque chose qui s'apparente à la connaissance paranoïaque, c'est il dégonfle sa haine sur l'autre. Hein, c'est ça? Oui. Redis-le en arabe.
Il fait chérido.
D'accord. Je suis sûr de le répéter correctement, je dirais autre chose, je ne sais pas trop quoi. Enfin, une absurdité ou une obscénité, donc je m'abstiens. Mais toujours est-il que c'est cette question de c'est l'autre qui me hait. Qu'est-ce qui va me séparer de cette dépendance que j'ai à mon reflet pris pour un autre, et non pas comme un effet de ma présence devant un miroir, si ce n'est, bon, là on trouve un peu, chose un peu conventionnelle, mais pas tout, juste dans l'observation, juste dans l'observation dans la clinique, si ce n'est de dire, eh ben, il y a un tiers qui ne se laisse pas fasciner par l'image. Autant l'enfant peut se laisser fasciner par l'image, autant le tiers, c'est celui qui ne se laisse pas fasciner par l'image, qui ne tombe pas dans ce qu'on appelle le mirage, le miroir aux alouettes, voilà. Hein? Et qui dit, ben je vais nommer ce que tu vois. Et regarde comme tu es ceci, comme tu es cela, comme tu es marrant, comme tu es beau, comme tu es bien peigné, comme tu es mal peigné, etc. Bon. Il va sortir une liste de mots, aucun ne résume totalement l'être. Bon. Mais c'est ce mouvement-là qui fait que le sujet va s'aliéner dans les mots de l'autre qui le sort de la connaissance paranoïaque. Bon. C'est-à-dire qui introduit de la connaissance, de la reconnaissance. Bon. Bon. Ça, on s'en doute. Sauf que c'est pas pour autant que le sujet en a fini avec le miroir, puisque il doit céder de deux images, une image réelle, une image virtuelle. Les rapports entre ces deux images, le réel et l'idéal pour aller très vite, va basculer un dispositif que Lacan déplie dans Séminaire 10. Le regard que le sujet jette sur ces deux images va basculer en fonction des tonalités affectives privilégiées dans lesquelles il se trouve, à savoir l'angoisse. L'angoisse, c'est un affect, c'est pas une passion. C'est une différence. C'est pas que l'angoisse, c'est le mouvement fondamental de la relation à l'autre. Or, il y a un lien énorme entre la haine et l'angoisse. Qui est que la haine, ça rassure. Quand je peux dire que telle personne, tel collectif, telle figure de l'autre, pour citer un auteur bien connu, est en quelque sorte digne de ma... Son indignité la rend digne de ma haine, eh bien, ça rassure. Mais à une condition. Que ce mécanisme de défense contre l'angoisse puisse faire lien social. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça. Ça s'appelle généralement les thèmes démagogiques de la majorité silencieuse. Cette majorité compacte, c'est le terme de Freud, qui n'est pas seule à penser qu'il est légitime de déplacer sa haine sur quelques signifiants exprimant la massification de l'autre, c'est-à-dire cette vocation à être détruite, c'est pas une vocation du sujet massifié. C'est si je massifie l'autre, je le voue à sa destruction. Ça veut dire pas que le sujet massifié veut être détruit. Bon. C'est pas pareil. Bon. Donc ce traitement de l'angoisse par la haine ne fonctionne que si ça donne une colle dans le lien social. Ce qu'on appelle, en confondant tout, du reste, les mouvements extrémistes. Alors, vous avez des mouvements extrémistes qui poussent, qui sont du côté de l'éros, mais pas de l'amour. Là, on va distinguer les choses. C'est-à-dire, du côté de la force qui rassemble tout, généralement ce qu'on appelle l'extrême droite. Alors, quand je dis qu'elle est du côté de l'éros, on me dit tu déconnes complètement, ils sont dangereux. Mais l'éros, attention, si tout dans la vie est une pulsion au regroupement du même au même, appelle l'éros, et ça fait des ravages. Donc là aussi, il faut retravailler Eros et Thanatos autrement qu'en disant c'est le bien ou le mal. Et là, on est paumé. Bon. Les mouvements extrêmes qui, eux, ravivent les différences intra. Pas les différences entre Français et étrangers, par exemple, pour le cas du pays dont je proviens, mais ces différences intra, entre exploiteurs, exploités, etc. Bon. Dans une lecture hâtive de Karl Marx, mais ça, c'est une autre affaire. Donc les extrêmes ne se valent pas. Parce que d'un côté, c'est le clivage entre l'identique et l'hétérogène, et de l'autre côté, c'est une réviviscence plus ou moins grand-guignolesque, plus ou moins juste, de ce qu'on pourrait appeler la lutte des classes. Bon. Avec parfois des rappels salutaires. Sur les logiques d'exploitation économique qui jouent au sein d'une logique économique. C'est pas pareil, ça joue au sein d'une nation, c'est pas ça. Ça joue à l'échelle internationale du marché. Alors, je reviens à Freud sur deux points, puis après on ouvre le débat, c'est quand même plus simple. Qui est le suivant. Alors, j'ai parlé d'Eros. Alors, surtout, il ne faut pas être binaire quand on lit Freud. C'est un peu, faut être nietzschéen, quoi, par-delà du bien et du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une théorie du mal. Ni une théorie du bien, mais il faut essayer de comprendre les choses. Faut pas être binaire. Quand Freud, ce que Nedra, du reste, a très bien dit en parlant de la dégradation de la pulsion de mort, en soif de destruction. Bon. Distingue pulsion de vie, pulsion de mort, il ne distingue pas la vie et la mort. C'est pas pareil. Il distingue une tendance à faire tenir ensemble ce qui se ressemble, qu'il appelle Eros, et une tendance à la disruptivité, à la disparité. Il appelle Thanatos. Non, c'est pas la lutte de la vie contre la mort. C'est pas vitaliste. Puisque le grand opérateur freudien, c'est de dire que la pulsion de vie travaille avec et contre la pulsion de mort. Non, avec et contre. Ce qui, à la fois, sauve la vie et sauve la mort.
Qu'est-ce que...
D'où le fait que ce gosse nous met sur une piste essentielle. Qui est que la mort, c'est autre chose que la destruction. C'est la réponse humaine, l'invention de la mort, et l'invention d'une réponse ritualisée humaine à la destruction. Je vous rappelle que ce que je disais hier, dans Souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci en 1915, l'enfant a deux questions, d'où viennent les enfants, où va-t-on quand on est mort? Et si on lui dit, tu vas à la fosse commune, puis ça vient parce qu'il y a un tuyau qui est rentré dans un trou, là, bon, gosse, il a besoin de savoir quel est le texte inconscient qui a présidé à ma naissance. D'où viennent les enfants? Et il a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites des morts? Qu'est-ce qu'on fait des morts? Quand il y a la mort, comment on réagit? Voilà. Il faut sauver cette possibilité de réagir par rapport à la mort. Autrement, le avec et contre finit par dire c'est la même chose. C'est la même chose. C'est quand même tout à fait important. Tous les gosses en Afrique qui ont vu leurs parents mourir, généralement qui se sont fait flinguer, alors, que j'ai rencontrés, quand j'ai mis en place ce centre à Bamako, que j'ai contribué à ce que celui de Ouaga et de Pointe-Noire, que ceux de Ouaga et de Pointe-Noire s'en inspirent, tous les gosses, ils me disent, et chez toi, qu'est-ce que tu fais des morts? Ben chez moi, ben ça dépend un peu. Il y en a qui enterrent, il y en a qui brûlent. Ah oui, ben c'est. Voilà. Il y a des façons qui ne sont pas permises par la loi. On n'enterre généralement pas dans son jardin. Avant, oui. Hein. Mes arrière-grands-parents en Corse, ils sont dans le jardin. Il n'y a plus de maison. Mais c'est. Je veux bien te parler, mais dis-moi ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on fait des morts dans ton pays? Sinon, je ne peux pas te parler. Et quand il me dit ça comme ça. Il dit, bon, tu peux me parler un petit peu de ce que tu as vécu? Ouais, mais dis-moi d'abord, Moi, mes parents, on les a laissés pourrir. Mais toi, quand il y a des morts chez toi, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, on ne les laisse pas au bord du chemin, on les enterre. Hein? Donc, sauver la mort, ça renverrait presque à cette scène anthropologique fondamentale de Totem et Tabou. Sidérés devant le cadavre du père, les frères inventent ce qui permet la parole, à savoir les totems et les tabous. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on voyait la sociologie. Un anthropologue qui dirait, pour étudier un peuple, il faut comprendre ses totems et ses tabous, on dirait, c'est un peu avancé depuis le totémisme aujourd'hui, le texte Le totémisme aujourd'hui de Claude Lévi-Strauss. Donc, ce qui est très intéressant quand on travaille sur la haine, et promis juré, je m'arrête là, comme patient, c'est de penser trois. Pas penser la haine, c'est l'amour qui devient de la haine, l'amour avant c'était de la haine, c'était bon, le fameux combat d'Olivier Roland dans La Légende des siècles, il se tape dessus, il se cogne, il s'étriper, se décapiter, se découper en rondelles, foutre par terre, et à la fin épuisé. Les frères sont là et c'est beaucoup plus l'entente cordiale que Caïn et Abel. Bon, est-ce qu'on peut arriver à aimer son frère sans passer 98 vers à vouloir le pourfendre? Là, c'est une question gaulienne. Oui. Mais voir le rapport entre la haine et la méconnaissance. Alors, c'est quoi la méconnaissance? C'est pas ne pas savoir. C'est la chose qu'on ne sait pas. Si vous me demandez aujourd'hui la quantité de tonnage du port de Rotterdam, oh, bah. Mais je ne pense pas que cette question soit venue spontanément à l'esprit. Mais la méconnaissance, c'est ne pas vouloir savoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui bétonne le refoulement. Au point qu'on peut se demander si certaines formes de méconnaissance ne fabriqueraient pas une forclusion construite. C'est-à-dire quelque chose qui va revenir dans l'hallucinatoire. Je ne veux pas savoir que l'autre fait partie soit de la communauté humaine, soit de la fraternité humaine, soit a fait partie de ce qui me permet d'être là. Les soldats de la coloniale qui sont morts en 14-18, en 39-40, ils m'ont peut-être permis d'être là. Voilà. C'est pas pareil que de dire comme cette espèce de gommeux là, de Bardella. Incroyable, ce type, il est méchant comme une vipère et fat comme une endive. Incroyable, incroyable. Hein? Mais il n'y a jamais eu de lien entre nous. J'ai envie de lui dire, Jordan, si t'es là, mon couillon, peut-être parce que ceux que tu veux éjecter, leurs grands-parents, ils sont morts. S'ils sont morts pour la France, ils sont morts pour ta pomme aussi. Bon, mais ça, on ne l'entend pas. On n'entend pas. Donc, cette question de la méconnaissance, sur quelle réalité clinique singulière on entend plus? La paranoïa. La paranoïa. Dire que la réversion des formules schrébériennes en je ne l'aime pas, je le hais, il me hait, c'est Freud qui construit le tissu. Mais à chaque saut, il y a une méconnaissance. Je méconnais que ma passion provient d'un énoncé antérieur. C'est-à-dire que si vous écrivez les phrases de Schreber, moi un homme, je l'aime, lui un homme, je ne l'aime pas, je le hais, je ne le hais pas, il me hait, vous n'aurez pas une reconstruction qui procède de façon hypothético-déductive à une mise en évidence du refoulé. Entre ce balai de l'amour et de la haine par réversion et projection haineuse, c'est-à-dire par dégonfler sa haine comme un ballon sur l'autre, hein, entre ces étages, il y a une couche de méconnaissance. Hein, c'est pas du tiramisu, ça. Il y a une couche de méconnaissance. La méconnaissance, c'est ne pas vouloir savoir au risque de créer une forclusion construite. C'est pour cela que ce qui me semble le plus intéressant à travailler quand on parle de la haine, c'est du lien fatal entre haine et méconnaissance, en cela qu'elle peut construire une forclusion qui ne tient que dans une coalescence du lien social évidemment dangereux et mortifère. Eh ben voilà, résistons. Et merci.